Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous savez que désormais, Good Luxe Paris, c'est aussi tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous retrouve en solo de 13h à 15h et tous les week-ends. J'ai le grand plaisir de retrouver mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux.
De toujours.
En forme, Emmanuel.
En forme. Et très en forme. En forme, sans géométrique du terme. Quasiment architectural de la forme.
C'est malin, ça. En cette année de commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier, nous rendons nous aussi hommage à ce grand architecte, également peintre et théoricien. Retour sur son histoire, ses réalisations en France, mais aussi à l'étranger, et aussi ses failles avec quelques-uns des grands spécialistes du genre. Guillemette Morel, journal, et les auteurs de Le Corbusier, construire la vie moderne aux collections Carnet d'architectes. Jean-Louis Cohen a lui écrit Le Corbusier, la planète comme chantier. Et puis nous recevrons également Hervé Yanou, administrateur de la Villa Savoie aux portes de Paris, vous savez, à Poissy. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et comme c'est la tradition, Emmanuel, on commence avec la table de la semaine.
Table de la semaine, je vais être rapide pour une fois. C'est une presque nouveauté. Nous sommes du côté du 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon, à l'enseigne du restaurant désormais Aupré. Jusqu'ici, ça s'appelait le Chardonneau-des-Prés.
Ah,
on a juste changé l'enseigne, et pas tout à fait. En fait, aux commandes, un certain, je ne connaissais pas jusqu'à présent,
Lignac.
Cyril Lignac, j'avais entendu parler. Donc Cyril Lignac, c'est l'un de ses trois restaurants. Il y en a un dans le 15e, le 15. Il en a un bistrot du côté, le Chardenou, du côté de la Bastille. Et donc, du côté de Saint-Germain, ce Chardenou des Prés, qui devient donc Les Prés, il a pas vraiment changé le décor. Il faut dire qu'il était très réussi. En revanche, il a changé totalement la carte. La carte était une cuisine, j'allais dire, un peu bistrotière, vieille France, très bonne. Là, il l'a un peu allégée. C'est un petit peu plus fruité, rafraîchissant, désaltérant, plus dans le légume, plus dans la salade, plus dans l'époque, plus. Et puis surtout, une adresse qui est ouverte le week-end avec un excellent, alors là bravo, j'aime pas beaucoup en parler généralement, mais un excellent brunch. Vraiment, très très beau brunch, un brunch gourmand, donc un brunch d'amplitude. C'est en vérité un véritable déjeuner du dimanche, transformé en brunch dans les manières d'horaire. On a toujours ce décor, encore une fois, très très joli, mais une adresse qui change d'enseigne, qui raffine, ou plutôt qui affine sa cuisine, et puis qui envoie la volée, j'allais dire d'un brunch, mais en français on parle ça d'un déjeuner du dimanche, et ça je trouve ça très réussi. J'aime bien, Les Prés.
Un nouvel hôtel. Ça faisait longtemps. Non, c'est un par semaine à peu près.
Un hôtel, oui, tous les 15 comme jours. Les bars et les restaurants, autrement voilà. On n'existerait pas, mademoiselle.
Exactement. Et ça s'appelle La Tamise. Et ça se trouve où? À Paris.
Oui, parce que vous savez que si j'étais à Londres, je vous laisserai en parler.
Hein. C'est ça, 4 rues d'Alger, dans le 1er arrondissement de Paris. En fait, il n'est pas tout nouveau, cet hôtel, sauf qu'il vient d'être repris par Esprit de France. On est entre le jardin des Tuileries et la rue Saint-Honoré. On est dans un hôtel particulier construit entre 1840 et 1850 par la famille de Noailles. On dit même que MacMahon aurait habité ici. Assez rapidement, l'hôtel particulier devient un hôtel baptisé La Tamise, c'est en 1878. Depuis, il a eu sa petite vie d'hôtel, avec des hauts et des bas, souvent un hôtel très mode. Et donc là, il vient d'être repris, rénové par Esprit de France. Et on retrouve les vitraux, les carreaux de ciment, les parquets anciens d'origine. C'est 19 chambres, hein, c'est quand même assez petit. En tout cas, dans cet hôtel, où on a tout, le salon de thé, le bar, le restaurant. Donc évidemment, c'est ouvert sur la capitale et sur Paris. Ça vous fait une adresse de plus.
Ça fait du boulot. Merci.
4 rue d'Alger, dans le 1er arrondissement de Paris.
C'est vrai ce que vous dites, j'ai croisé, parce que je n'ai pas très très loin. Et c'est vrai qu'ils ont gardé quelques vestiges architecturaux, puisque l'émission est dédiée à l'architecture, notamment ces vitraux, ils sont superbes.
Voilà.
Cette salle, ça s'appelle La Tamise, mais c'est vrai que la salle, notamment de petit déjeuner, fait presque, on est presque dans le monde un petit peu anglo-saxon, c'est presque un pub éclairé. Mais j'aime bien.
Allez, moi
de luxe. Hein, les chambres, je n'ai pas testé.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, web de luxe.
Sandy Prenois.
Bonjour.
Prenois, Sandy, bonjour.
Que s'est-il passé sur le web cette semaine?
Alors, d'abord, cette nouveauté du côté de la maison Gianfranco Lotti, qui est avant tout une maison de maroquinerie italienne qui propose des sacs, de la petite maroquinerie, des gants, mais aussi des cachemires et des foulards. C'est une maison très luxueuse, on est véritablement dans du haut de gamme. Une première boutique parisienne a ouvert 418 rue Saint-Honoré en juillet dernier. À présent, la marque est en train de repenser et de restructurer complètement sa communication digitale. Alors, des contenus photos sur Instagram, sur Facebook, entre autres, une vidéo sur YouTube, c'est sur elle que je m'arrête aujourd'hui. Au-delà de nous faire saliver sur les produits de la marque héritière de la plus haute tradition du cuir florentin, elle nous donne vraiment l'occasion de rêver d'amour, de papillonner comme ça le long des rues parisiennes. C'est une très belle vidéo, assez mystérieuse, qui va parfaitement bien avec la maison. C'est l'histoire d'un homme qui prend son porte-document, l'histoire d'une femme riche de sac à main. Tous les deux ont-ils rendez-vous possible? C'est à découvrir sur le site gianfrancolotti.com.
Et voilà, c'est l'occasion de découvrir cette marque italienne.
Elle est jolie, hein, l'égérie, enfin le mannequin qui incarne cette
mais
femme.
Mais l'homme aussi.
Il y en a pour tous les goûts, c'est parfait.
Bah, qui garde sa tête dans le sac à main.
Et du côté de la maison Chanel.
Alors Chanel, vous le savez, il y a la nouvelle collection des lunettes printemps-été 2015. À cette occasion, une grande campagne de pub photo. Mais il y a eu une vidéo making-of de cette campagne photo qui a été réalisée. Elle est disponible sur le site de la maison, rubrique Chanel News. On y voit évidemment l'égérie qui est l'actrice Kristen Stewart, ici androgyne et dans le rôle d'une photo reporter. Deux nouveautés à découvrir, la modèle lunettes de vue, monture papillon et des solaires aussi, carré en acétate, effet tweed. Moi je dis, ça donne envie d'être au soleil, voire d'être myope, parce que la monture optique elle est quand même franchement pas mal.
D'accord. Mais le making-of, ouais. Les petits clips qui montrent la réalisation,
c'est chez Karl Lagerfeld.
On voit d'abord et surtout Karl Lagerfeld.
Ouais, on voit les
beaucoup
deux.
Plus que
on
la, voit... la
non,
jeune
non,
femme.
Non, pas beaucoup plus.
Si, si, on voit les deux. On voit surtout son catogan.
Bah oui, non, d'ailleurs. On les voit ensemble. Ils sont très, très, très complices. Voilà.
Bah, on
parce qu'en plus, elle avait déjà réalisé l'autre campagne
d'accord.
précédente.
On voit sa bibliothèque. C'est vrai qu'elle est sublime. Il paraît
ah,
c'est
oui.
un monument, une cathédrale. La bibliothèque de Karl.
De Karl Lagerfeld, bien sûr. Vous, tout de suite, voilà, le bar, quoi.
Eh ben, un bar, ça faisait longtemps. Un hôtel pour vous, un bar pour moi. Le syndicat, il a ouvert il y a quelques mois, il cartonne. Rue du Faubourg-Saint-Denis. Alors, rue du Faubourg-Saint-Denis, hein, on n'en parle plus, ça devient le nouvel épicentre parisien. Alors, le syndicat, ce qui est intéressant, c'est le sous-titre. Parce qu'on a storytellé l'affaire, et c'est sous-titré donc « Organisation de défense des spiritueux français ». C'est là que ça devient sympathique. C'est que le bar joue un petit peu sur les codes du clandé, du speakeasy. On arrive du côté de cette rue du Faubourg-Saint-Denis qui hésite entre Bobo et Populo encore un peu. Des affiches. En fait, c'est derrière ces affiches que se révèle ce bar, les codes habituels du bar. Mais en ce qui concerne les cocktails et les spiritueux, on est 100% Frenchy. C'est-à-dire qu'on va travailler tous nos vieux alcools, de la Suze, du Beer, de la Bénédictine. Alors c'est la grande mode, hein, parce que dans le 10e, pas très loin de là, un autre bar s'appelle À la Française, et même radicalisme. Aujourd'hui, ça va faire plaisir à Montebourg. Les bars et le cocktail, c'est Made in France.
Mais il n'est plus là.
Le bleu, le bambou.
Ouais, ouais.
Oui, mais il est toujours militant, lui. Il n'est plus là, oui, mais bon. Il y a toujours les.
Quoi, du bar, mais Made in France, messieurs, ouais. Dames.
Donc tous les alcools qui ont fait aussi notre patrimoine sont un petit peu revus, corrigés en manière de cocktail, et c'est vrai que ma foi, c'est bien le whisky. C'est très bien le gin, j'adore avec modération tout ça, mais il y a des bases de cocktails et des alcools très de terroir qui permettent d'avoir des goûts et des saveurs.
Puisqu'on est un petit peu dans le vintage, comme ça, dans les petites choses anciennes qui vous font rêver ou pas,
à vous trouver.
Maxim's.
Ah, Maxim's, il n'y a plus rien là.
Eh ben si, ils ouvrent une boutique.
C'est pas vrai.
Au Carrousel du Louvre. Hein, on les croyait morts et enterrés, Maxime.
On n'a pas dit que c'était bien, on a dit qu'ils ouvrent une boutique.
Mais voilà, donc je trouve ça assez marrant quand on imagine que cette marque était complètement sur le déclin. Eh ben voilà, qu'ils nous surprennent et ils ouvrent une boutique au Carrousel du Louvre. Donc vous irez voir pour vous rendre compte moi-même. Ça a quand même 120 ans d'existence. Et c'est vrai que c'était l'un des premiers comme ça à offrir les chocolats, champagne, foie gras et bien d'autres spécialités gourmandes. Il y a près de 200 références. Des nouvelles gammes. Et c'est vrai que la légende avait commencé en 1893, rue Royale.
Ça, c'est pour l'histoire. Cardin a développé la marque. Moi, je vais y aller. Je vais tester tous les produits. Je vais vous dire si c'est bien. Parce que ça, c'est autre chose.
Eh ben voilà.
C'est vraiment autre chose.
Là, je vous l'annonce, allez tester.
T'es égal au contenant, pas certain.
Je suis sûre que vous ne connaissiez même pas, Maxime.
Ah bah si, je connaissais.
Ah, quand même, un petit peu. Bon, allez, on taquine un petit peu.
Oui, mais il y avait quand même la maison Maxim's. Enfin, on a connu ça. Tout le monde a connu ça. Franchement.
Allez, et Roger Pancal, vous connaissiez?
Oui.
Ah aussi, ah, vous êtes vraiment...
L'objet de la semaine, en fait, elle n'est pas si jeune que ça.
Elle a pris un coup de vue, elle, en 5 minutes.
L'objet de la semaine, on l'attendait tous, vous l'attendiez sûrement depuis 3 ans. La V+, est sortie. By Stark, ça vous parle. La petite voiture électrique du jardin sur laquelle il travaillait avec Volteis depuis des années. Donc c'est une voiture de plage 100% électrique, donc conçue par Volteis et Philippe Stark. Eh bien, elle est enfin commercialisée. Ça y est, il fallait aller sur le site madeindesign.com si vous avez 30 000 euros à sortir. mais elle est rechargeable en 2 heures. Elle a une autonomie de 60 km. Elle va jusqu'à 65 km/h. Pardon, inox, acier et rotin tressé. Un joli joujou.
C'est un joli joujou, mais voiture de plage. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit habilitée, homologuée pour la route.
Mais je vous dis, voiture de plage.
Ouais, voiture de plage, voiture de gazon.
Mais bien sûr.
Voiture de golf.
Mais c'est so chic. V+, by Stark. Voilà, je ne vous l'ai pas amené forcément aujourd'hui, hein, le jet de la semaine.
On voit
c'est
ça.
Pareil, on ira tester. Merci beaucoup, Sandy Prenois. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous. Dans un instant, justement, on va parler de grands dessinateurs, d'un grand dessinateur et aussi architecte, c'est Le Corbusier.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe architecturés cette semaine à l'occasion des 50 ans de la disparition de Le Corbusier. Nous sommes en compagnie de Guillemette Morel, journal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et auteur en histoire de l'art et vous venez de sortir Le Corbusier, construire la vie moderne dans la collection Carnet d'architectes. À vos côtés, Hervé Yannou. Bonjour.
Bonjour.
Administrateur de la Villa Savoie à Poissy, l'une des nombreuses réalisations de Le Corbusier. Jean-Louis Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'architecture et de l'urbanisme et vous venez de sortir Le Corbusier, la planète comme chantier aux éditions textuelles dans une belle couverture jaune qu'on ne peut guère rater. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. La semaine dernière, on parlait de montres connectées dans Good Lux Paris. On pourrait se dire, mais dis donc, ceux-là, ils sautent vraiment du coq à l'âne. Et pourtant, l'histoire de Le Corbusier, je m'adresse à vous, Jean-Louis Cohen, elle commence aussi au pays de l'horlogerie. Il aurait pu, finalement, devenir horloger.
Le Corbusier, quand il s'appelait encore Charles-Édouard Jeanneret, était né à La Chaux-de-Fonds, où avant 1914, la moitié de la production mondiale de montres s'effectuait. Son père émaillait des boîtiers de montres et le métier auquel on le destinait était d'être graveur de boîtiers de montres, ce qui explique entre autres la sûreté de son trait, de ses dessins, car lorsqu'on grave de l'or ou de l'argent, on n'en perd pas un milligramme. Donc il est vraiment, il a été plongé dans l'horlogerie dès son plus jeune âge.
Et surtout au départ, il est suisse.
Il est suisse, il est chaudefonnier, il est jurassien, proche de la frontière française.
Ah, les chaudefonds, c'est tout proche, hein, c'est après les Joux.
Et on peut dire que dans ce monde de la montre, qui est à la fois une machine et une œuvre d'art, en tout cas à l'époque, on peut trouver les racines de son effort, sa vie durant, pour imaginer un art de l'époque machiniste.
Mmh. Et tout de suite, il y a le dessin. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, finalement, dans votre ouvrage, Guillemette Morel Journal, même si vous retracez sa vie tous les deux, et beaucoup sur le dessin. Il y a beaucoup de plans de toutes ces réalisations. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas Le Corbusier si on ne comprend pas ce trait qu'il y a au départ.
Absolument. C'est d'ailleurs ce qui fait sans doute plus que d'autres architectes contemporains sa spécialité, c'est que c'est un très grand dessinateur. Ce qui n'est pas le cas de tous ses confrères de l'époque. Et pour comprendre Le Corbusier, si on ne regarde pas ses dessins, on passe à côté de beaucoup de choses.
Mais alors là, comme on est encore en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, à l'enfance, vous l'avez un peu évoqué, vous parlez du trait. Alors est-ce que ce trait, c'est un génie, c'est un talent, c'est un virtuose, c'est instinctif? Ou est-ce que justement ce trait, il va l'acquérir, l'apprendre durant ses années d'apprentissage? Et quel est finalement son apprentissage? Vous le dites, il était destiné peut-être à travailler dans le monde de l'horlogerie, c'est pas ce qui va se passer. Alors comment ça se passe? Les années de formation.
Son premier maître, il a eu plusieurs maîtres, son premier maître est un peintre qui s'appelle Charles Platonnier, qui lui apprend à dessiner, à peindre aussi. Et donc il part avec son carnet de croquis en poche, en Toscane, en Autriche, à Paris, puis en Allemagne, en Bohême, jusqu'à Istanbul. Et il revient par Athènes et il laisse des centaines de dessins. Donc c'est quelqu'un qui, sa vie durant, observera le monde. Et cette sensibilité à la fois à l'antique, cette sensibilité aux villes qu'il rencontre, est quelque chose qui va déterminer sa manière de faire de l'architecture ensuite.
Alors justement, Guillemette Morel Journal, à quel moment il verse dans l'architecture? À quel moment, finalement, c'est quelqu'un qui lui donne l'idée presque d'être architecte?
Alors, Le Corbusier est un grand constructeur de mythes, et particulièrement de son propre mythe.
Là, il ne va pas sans l'autre, hein, souvent.
Ben alors là, il est vraiment, c'est un maître, hein, indéniablement, et donc il se plaît à raconter, mais on n'en est pas sûr, que c'est le fameux Charles Le Platonnier, qui donc le formait normalement pour être graveur de montres, qui décide à un moment de réunir pas mal de disciplines liées aux arts décoratifs. Et que, au sein de ses meilleurs étudiants, il va former des sculpteurs, des fresquistes et aussi un architecte. Et il choisit, donc Charles-Édouard Jeanneret, lequel, nous dira Le Corbusier, n'était pas du tout d'accord et a dit « Mais non, l'architecture, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne veux pas faire ça. » Mais bon, comme il était discipliné, il a dit oui et il est arrivé ce qui est arrivé.
Et alors, à quel moment il prend le nom de Le Corbusier ?
Cela se passe en 1920. En 1920, Jeanneret est à Paris, il décide de séduire Paris. Et il va le faire avec des plans d'urbanisme, avec des livres, avec en devenant peintre. Et en publiant une revue qui s'appelle L'Esprit Nouveau, avec son camarade peintre Amédée aux Enfants. Et tous les deux prennent des pseudonymes parce qu'ils signent la moitié des articles. C'était très courant dans la presse de l'époque. Lui prend un pseudonyme assez particulier. Il avait un ancêtre qui s'appelait Le Corbusier. Il le modifie un petit peu. Cet ancêtre était le dernier survivant d'une famille d'origine cathare. Donc il avait une sorte d'allégeance à son histoire, et surtout Le Corbusier, qu'est-ce que c'est qu'un Corbusier ? C'était un archer qui, sur les remparts des villes médiévales, tuait les corbeaux. Donc c'est un surnom qui prend une sorte de sens, qui est celui de quelqu'un qui abat les mythes, qui fonde un monde nouveau en détruisant le monde ancien.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous parlez de ce fameuse revue, L'Esprit Nouveau, à l'époque, il n'a pas encore réalisé. Il n'a pas vraiment architecte. Il est plutôt dans la conception, dans la théorie. On a ce sentiment que dans cette revue, beaucoup de choses sont déjà dites de ce qu'il réalisera plus tard, un peu à la manière d'ailleurs des surréalistes qui, au même moment, créent un manifeste avant d'aller véritablement creuser la matière surréaliste en peinture ou en poésie. Tout comme plus tard, les gens de la Nouvelle Vague, avant de passer au cinéma, vont travailler au cahier et infuser leur idée du cinéma. C'est important cet instant de l'Esprit Nouveau, de cette petite revue où tout est presque déjà théorisé, pas complètement, mais les grandes lignes.
C'est une revue prophétique. À l'époque, donc Le Corbusier a quand même fait pas mal de bâtiments en Suisse, mais il les renie. Il ne les publiera plus jamais parce qu'il trouve qu'ils ressemblent trop à des chalets boîtes à musique. Donc il oublie ses premiers bâtiments, il se réinvente en disant à ses contemporains, regardez les avions, les bateaux, les autos, c'est là que l'architecture va trouver ses nouvelles ressources. Donc il définit un programme. Et par la suite, il ne cessera plus d'écrire puisqu'il a laissé, si je ne me trompe, 75 bâtiments, mais à peu près 45 livres.
Oui, c'est vrai, c'est un vrai auteur, d'ailleurs, vous savez.
Et 700 articles.
Oui, il est en journée. C'est vrai qu'on dit hein, dessinateur, architecte, théoricien, et c'est vrai que c'est tout cet ensemble-là. Mmh. Emmanuel,
absolument.
Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, il regarde le monde dans ses années d'initiation, lorsqu'il se balade en Bohème, à Paris, ça, il observe à la manière d'un peintre les villes, les capitales. Là, après, il regarde son époque aussi. Vous parlez des paquebots, vous parlez des avions, c'est ça qui va déjà déterminer, c'est cette capacité de Le Corbusier à regarder son temps droit dans les yeux.
Ah bon, oui, bien sûr, c'est certainement ce qui caractérise, là encore, la différence par rapport à d'autres architectes. Alors après, c'est un regard totalement biaisé, hein. Il prend bien sûr ce qui l'intéresse.
Par exemple
Par exemple, effectivement, la machine, la mode masculine, les classeurs, un certain type de mobilier, tout ce qu'il appelle les objets standards, où il regarde aussi les planches d'anatomie du Petit Larousse ou d'ouvrages comme ça. Enfin, c'est un savoir très, très étendu. Il s'intéresse beaucoup à la musique, même s'il il le raconte beaucoup dans ses lettres, mais il ne raccrochera, disons, avec ce penchant-là qui était lié à sa famille, puisque sa mère était pianiste et son frère, violoniste. Et donc, à la fin de sa vie, il construit un bâtiment avec Edgar Varèse. Il est très proche de... Enfin, plutôt, Xenakis est très proche de lui. Donc, il a toute cette part-là. Mais la musique faisait aussi grandement partie de sa vie.
C'est ça, sa force, c'est une époque aujourd'hui qui parle beaucoup de transversalité, qui veut depuis des années comme cela connecter l'ensemble de la création, qu'elle soit artistique ou autre. Lui, il avait compris bien plus tôt, c'est ça sa force. C'est pour ça que c'était un moderne.
Il développera à la fin de sa vie le slogan de la synthèse des arts, en disant les arts doivent se réunir, à condition que ce soit moi qui les maîtrise tous. Donc il s'opposera à certains de ses amis sur ce point-là. Je dirais que qu'il avait cette capacité d'observation. Dans le même temps, c'était un homme moderne de beaucoup de manières. Pas simplement parce qu'il construisait en béton armé, mais aussi parce que c'était un homme qui voyageait sans cesse en train, en zeppelin, en bateau, en avion, et aussi parce qu'il a eu un sens aigu des mass médias. Et c'est ce qui fait, pour une part, qu'il prend des coups aujourd'hui, parce qu'il s'est exposé de manière parfois extrêmement consciente, en essayant à tout prix d'être sur la première page des journaux, en utilisant parmi les premiers la radio, en utilisant le cinéma et plus tard la télévision. Donc c'est un homme de l'âge des médias.
Vous parliez de 75 représentations, en tout cas créations à travers le monde. On verra effectivement qu'on peut faire un petit tour du monde, Le Corbusier, mais on peut aussi aller aux portes de chez nous, Hervé Yanou, puisque la Villa Savoie, on est à Poissy, donc en banlieue parisienne. C'est la représentation ultime presque de tout ce qu'on vient de dire et de toutes les idées de Le Corbusier, cette villa.
C'est une partie de son travail sur l'habitat individuel, la dernière de ces villas blanches. Ensuite, il passera à d'autres travaux. Alors effectivement, la Villa Savoie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un monument iconique. C'est un pèlerinage que tous les architectes et futurs architectes du monde entier font à Poissy. Ils viennent à Paris et se rendent à Poissy pour voir cette maison qui réunit effectivement toute une pensée, une grande pensée de Le Corbusier, puisqu'elle est construite après la publication de ses 5 points de l'architecture qu'il va appliquer dans la Villa Savoie.
C'est une commande.
C'est une commande de la famille Savoie, qui est une famille d'assureurs originaire de Lille et qui connaît déjà des réalisations de Le Corbusier, des villas qui ont disparu aujourd'hui à Ville d'Avray, et ça leur a plu. Ils sont dans un mouvement assez moderne même. Ce sont donc des commanditaires, et la grande chance de Le Corbusier, c'est que contrairement à d'autres commanditaires qui sont des collectionneurs, des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, ils veulent une maison ainsi parce qu'ils ont des collections à présenter, là il a quasiment carte blanche. La lettre de commande est assez simple. C'est une villa de week-end, une résidence secondaire, proche du golfe de Saint-Germain-en-Laye, puisque les Savoies jouent au golf, proche de Paris, où on peut venir en voiture avec un certain nombre d'éléments. Allez-y, construisez-nous cette maison. Et donc Le Corbusier, là, a des commanditaires, des mécènes malgré eux, qui vont lui permettre de théoriser, de construire toute sa théorie dans cette Villa Savoie.
Alors justement, on va essayer de faire, c'est un peu compliqué, mais vous dites bien, c'est les 5 piliers, si je puis dire, de son architecture sont représentés de l'instant de cette bâtisse. C'est difficile, mais est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, d'abord quels sont ces 5 thèmes et comment ils s'incarnent véritablement dans la réalité de cette maison?
Alors c'est très simple, Le Corbusier d'abord, en construisant cette maison, décrit aussi une promenade architecturale. Donc on va voir les pilotis, un des premiers points, la façade libre, le plan libre, les toits terrasses et les fenêtres en bandeau. Voilà les points que Le Corbusier met en œuvre à la Villa Savoie, cette villa que ses propriétaires vont appeler les heures claires. On parlait d'horlogerie tout à l'heure. On la retrouve ici puisqu'effectivement, il y a ce jeu de la villa avec son environnement qui fait que c'est une boîte suspendue au-dessus de l'environnement et que, avec ces fenêtres en bandeau qui font tout le tour de ce cube, on a toute la journée la course du soleil dans la villa.
Alors on va voir qu'elle continue à vivre, bien sûr, cette villa. Mais d'abord, on fait une petite pause sur BFM Business. Et on revient juste après pour continuer à parler de Le Corbusier.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Alors que vient de s'ouvrir l'exposition Le Corbusier, mesure de l'homme au centre Pompidou, retour sur les créations de l'architecte mort il y a 50 ans avec les spécialistes du genre. Nous sommes toujours en compagnie de Guillemette Morel-Journel, auteur de Le Corbusier, construire la vie moderne, de Hervé Yanou, administrateur de la Villa Savoie, et de Jean-Louis Cohen qui vient de sortir Le Corbusier, la planète comme chantier. On s'est arrêté à la Villa Savoie à Poissy, mais finalement Jean-Louis Cohen, l'idée comme ça de construire des villas pour des bourgeois, des gens bien placés, mais de la banlieue parisienne, ça c'était quelque chose qui plaisait aussi à Le Corbusier.
Le Corbusier cherchait à séduire les élites, toutes les élites. Donc il a cherché à séduire les collectionneurs fortunés, les hommes d'affaires parisiens, d'abord pour avoir des commandes, et puis ensuite parce que derrière eux, il voyait une autre élite, qui était celle qui au fond l'intéressait le plus. C'était Citroën, c'était Peugeot, c'était Olivetti, c'était Fiat, c'était l'élite industrielle. Son projet était un projet double, de faire des maisons, de réinventer l'architecture en utilisant ce nouveau langage, mais aussi de transformer les villes. Et pour ça, il sentait bien que ses alliés devaient être ou bien les États, ou bien ce qu'il appelait l'autorité avec un grand A, c'est-à-dire les États, ou bien les industriels. Et donc il n'a cessé d'essayer de les draguer de différentes manières, avec différents bonheurs. En 1925, le constructeur de voitures, Gabriel Voisin, finance son plan pour Paris. Ensuite, il arrive à peu près à séduire Fiat en réclamant que Fiat lui donne une voiture dont il ferait la publicité. Il n'y arrive pas quand même. Après la guerre, c'est Olivetti en Italie qui finira par lui confier un très grand bâtiment. Donc, si vous voulez, il a par ailleurs un discours social. Il parle de l'habitation pour le plus grand nombre et apporte des solutions qui sont toujours des solutions intéressantes, mais pour l'essentiel, c'est un architecte de l'époque du capitalisme moderne.
Ginette Morel-Journel, c'est intéressant, en creux, c'est difficile comme cela en une petite demi-heure de comprendre tout le personnage, mais on voit bien, c'est un stratège, il a un fort ego. Il a un ego surdimensionné. Vous disiez tout à l'heure, c'est aussi oui, un architecte de lui-même. Vous disiez tout à l'heure qu'il a forgé plusieurs mythes, à commencer par les siens. Le personnage et la personnalité, on arrive à mieux la capter. Est-ce que c'était un imbuvable ou pas?
C'était un imbuvable.
Au risque d'ailleurs de beaucoup de contradictions tout de même.
C'était un imbuvable et un être charmant. Oui. À peu près comme tout le monde, mais avec des excès assez prononcés dans les deux sens.
D'ailleurs, il y a des bouquins qui sortent aussi sur ses accointances avec Vichy.
Oui, alors, on m'a dit de ne pas le dire, mais je suis très énervée personnellement parce que je trouve ça très malhonnête que des personnes qui connaissent pas bien le sujet portent des accusations aussi fortes. Le Corbusier est tout sauf un grand résistant, c'est tout sauf un fin politique et un fin analyste de la réalité qui l'entoure. En revanche, ce n'est ni un fasciste, ni un pro-nazi, et rien ne permet d'étayer ça. Je pense que Jean-Louis Cohen.
Oui, moi je me suis intéressé à l'autre aspect. Je me suis intéressé à l'autre aspect, c'est-à-dire le flirt qu'il a entretenu pendant un certain temps avec les Russes dans les années 20, donc dans la période utopique de la Révolution russe. Donc, Le Corbusier était à l'affût de tous les régimes qui pouvaient être porteurs de réformes. Donc, il a cru les voir à Moscou, il a cru les voir à Rome. Jamais à Berlin, parce qu'il détestait l'Allemagne. Il a cru à un moment que, comme beaucoup
d'intellectuels,
qui ont fini dans la résistance.
Et de personnalités de l'entre-deux-guerres. Période troublée, délicate.
Absolument. Donc il a pensé à un moment donné qu'à Vichy, il allait pouvoir trouver ça. Ce que l'on peut dire, c'est que c'était un réformateur qui pensait que la démocratie était plutôt un obstacle aux réformes. Qu'un milieu favorable. Et donc, il a été du côté des discours d'autorité, de manière tout à fait claire.
Mais si on revient à ces réalisations, effectivement, dans ces carnets d'architectes aux éditions du patrimoine, à Guillemette Morel-Journel, vous faites un petit peu justement le tour du monde. On en parlait tout à l'heure, en tout cas de ces réalisations. Mm-hmm. Justement, au-delà de Poissy, où on va revenir dans un instant, si on veut voir des réalisations les plus prégnantes de Le Corbusier, donnez-nous les deux lieux.
Ben c'est compliqué.
Alors un petit tour en France, comme ça, si on s'amuse à aller
en France,
à faire un petit tour. Ouais.
En France, Paris, Auteuil avec les villas La Roche-Jeanneret et Poissy, bien sûr, avec la Villa Savoie. Ronchamp. La chapelle de Ronchamp, donc plus difficile à atteindre au fin fond des Vosges, et l'unité d'habitation de Marseille.
Et alors, tous bâtiments ouverts au public.
Oui. Hein,
il faut dire que ces bâtiments, on les visite même, la Cité Radieuse, qui est un immeuble d'habitation.
Merci beaucoup, vous restez avec nous sur BFM Business. Allez, Good Lux Paris, la suite dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et c'est nouveau, dans un instant, Good Lux vous offre son box-office parfumé du mois d'avril. Mais tout de suite, c'est le livre de la semaine. Enfin, le petit livret, je ne sais pas comment on l'appelle. Le petit livret, en fait, il est tout petit, il tient dans la poche. Il ressemble à ça. Ce n'est pas vraiment celui-ci, parce que celui-ci s'appelle Bonjour London. Il y a aussi eu Bonjour Paris, Bonjour New York. Vous vous en souvenez, j'en avais parlé il y a quelques années.
Moi, j'ai oublié.
En fait, c'est Marin Montagu qui a eu la super idée de créer ces petits livrets qui, en fait, s'ouvrent ensuite comme un plan autour d'une ville. ville avec des super adresses. Et tout ça est magnifiquement orchestré, je vais y arriver, dessiné et voilà, réalisé.
Ah, c'est voilà, une manière avec... de carte au guide.
Exactement, de carte au guide. La nouveauté, donc celui-là, c'est celui sur Londres. La nouveauté, c'est que la marque de cosmétiques L'Occitane a appelé Marin Montagu, qui a quand même fait la Saint Martin School of Art and Design de Londres. Donc c'est lui qui vraiment fait le graphisme de tout ça, de faire un petit guide sur les adresses de Provence, puisque c'est avec L'Occitane. Donc Marseille, Arles, Aix-en-Provence, la Camargue, où vous découvrirez par exemple la plus ancienne droguerie du monde, où vous découvrirez une ancienne imprimerie transformée en riad.
Vous découvrirez l'ensemble des boutiques L'Occitane.
Et tout ça, pas forcément, et tout ça pour la modique somme de 12 euros. Et c'est en vente dans les boutiques Occitane et sur l'occitane.fr. Ça vient tout juste de sortir. Mais encore une fois, coup de chapeau à Marin Montagu.
Non, c'est
qui, voilà,
c'est
le petit ouvrage de poche.
La Provence a été, entre guillemets, brand contentisée par l'Occitane. Mais est-ce que les autres...
mais pas du tout.
C'est la première fois.
Oui, et puis je suis pas sûre que l'Occitane soit
d'exister.
Si présente.
Hein, non, je pense que non.
Non, ils font ça c'est intelligemment parce là, ouais. que c'est vraiment...
Je les ai feuilletés. Effectivement, c'est pas une publicité.
Et vraiment avec des nouvelles adresses. Ouais, voilà. Il y a vraiment des choses que vous pourrez découvrir. Allez, c'est nouveau et ça sent bon.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.
Lionel Paillès, bonjour.
Bonjour Karine.
Alors,
bonjour, Lionel.
Notre diffuseur de bien-être qui avait le nez dans le parfum à longueur d'année. On s'est dit avec vous, on va essayer de faire un petit box-office du parfum tous les mois. Voilà, à chaque fin de mois ou à chaque début de mois. Bref, au moment où on reçoit le salaire et...
voilà. On peut flamber.
On peut flamber. En tout cas, c'est pas mal de revenir parce qu'effectivement, on dit tout le temps, il y a 400, 500, 600, je sais plus combien lancements chaque année. Et donc, c'est bien de faire un peu le tri grâce à vous. Et donc, la grande info de ce dernier mois, de ces dernières semaines, c'est bien sûr le nouveau Chanel.
Donc le nouveau Chanel avec le nouveau parfumeur Chanel qui s'appelle Olivier Polge. Donc on attendait sa signature parce que l'arrivée d'un nouveau parfumeur qui succède à son père, en l'occurrence, c'est toujours très très attendu. Donc il nous a fait un parfum qui s'appelle Missia. Donc Missia, on est vraiment dans du vrai Chanel. C'est-à-dire qu'on hésite entre du parfum d'hier, du parfum d'aujourd'hui, du vintage, du post-moderne. On est dans tout ça en même temps. Il faut bien le lien avec l'histoire de Chanel. Donc c'est un parfum très poudré. Alors pourquoi Missia? Parce que Missia Serre, c'était une des amies de Gabrielle Chanel, c'est elle qui lui a fait rencontrer le Gotha culturel de l'époque, et notamment Diaghilev. Et pourquoi la référence à Missia? C'est que Diaghilev était lui-même ami de Missia Serre, puis de Gabrielle Chanel, et elle l'a sponsorisé. Donc Diaghilev, ce sont les ballets russes, et Olivier Polge a travaillé sur l'odeur des bottes des ballets, des danseurs de ballet.
Donc
c'est vraiment, l'idée. Donc c'est très cuiré, poudré, irisé, parce qu'il y a aussi la poudre de maquillage des danseurs.
C'est les coulisses de la danse.
Donc on est vraiment dans quelque chose de très violette, irisé, une légère note rosée également.
Et flacon toujours épris de sobriété.
Donc toujours dans les exclusifs Chanel, c'est-à-dire toujours le même flacon, ça ne bouge pas. Et ça rentre dans cette collection des parfums très premium chez Chanel.
Donc vous l'approuvez?
Ah oui, beaucoup, vraiment.
Vraiment.
Très très beau parfum.
Un très beau Chanel.
Toute la maison Chanel et au niveau des nez, c'est toujours très intégré. C'est une des dernières maisons à avoir son nez dédié qui ne travaille que par et pour Chanel.
Tout à fait.
Allez, donc, et votre tableau d'honneur du mois?
Alors là, on a plein de belles choses. Donc ce que j'appellerais la confirmation, parce qu'on a déjà vu cette collection plusieurs fois, on en a parlé ici, ce sont les heures de Cartier. Donc, à l'image exclusive de Chanel, sont la collection un peu parallèle et très privilégiature de Cartier qu'on trouve dans quelques points de vente. Alors, Mathilde Laurent la frappe un très, très, très grand coup parce qu'elle nous sort L'Heure perdue. L'Heure perdue, c'est le premier parfum d'une grande maison 100% synthétique.
Ah oui,
c'est-à-dire.
Alors là, tout le monde doit hurler en disant
quoi,
une grande maison.
Ouais. C'est-à-dire qu'elle assume totalement ce côté synthèse.
Le parfum soutient un discours en disant voilà, la synthèse, les maisons ne communiquent jamais dessus et laissent croire au public que la belle parfumerie, c'est une parfumerie de matières premières naturelles. Eh ben non, c'est pas vrai.
D'abord, la vérité, c'est que c'est pas vrai à 99%.
C'est vrai pour aucune maison.
Et alors, ça sent quoi?
Et tant mieux. Donc, c'est un parfum très. Alors, le gros gros succès de ce parfum, c'est de faire un parfum 100% synthétique qui sent naturel. Et ça sent quelque chose de très gourmand, très vanillé, le gâteau, il y a des notes noisettes, donc quelque chose de très, très, très réconfortant. Mais vous mettez le nez dedans, vous avez l'impression de sublime matière première naturelle, et c'est vraiment une...
C'est pas fait pour réussir,
la rébellion.
Non, alors moi, j'aime beaucoup les synthétiques.
Vous avez écrit un ouvrage l'année dernière autour justement de l'éloge de la synthèse, en expliquant d'ailleurs que c'était la vérité du parfum, qu'il fallait l'assumer et que ça n'interdisait pas ni la création, ni même les réminiscences qui
absolument
les accompagnaient.
Oui, oui.
Allez, rapidement, la rébellion.
Alors la rébellion, donc c'est Thierry Mugler. Thierry Mugler, à nouveau, vous allez dire, je suis un peu un obsédé de ces collections un peu prestige des grandes marques, mais Mugler lance également sa collection qui s'appelle Les Exceptions. Alors, avec un petit raté au démarrage, c'est qu'il n'y a pas de diffuseur en France, donc il faut aller à Londres, à New York.
Mais c'est so chic.
Voilà. Donc ils vont bientôt avoir un diffuseur. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Donc ça s'appelle Les Exceptions. Et alors le parfum qui me semble le plus intéressant des cinq s'appelle Oriental Express, qui a été fait par Olivier Polge, donc le fameux Olivier Polge qui est chez Chanel aujourd'hui. Donc
avant qu'il quitte
sa maison précédente.
C'est un ami à vous, hein. Il a eu le droit à deux fois son nom sur trois parfums.
Ça n'est pas un ami, mais ça peut le devenir.
Et ça sent, l'Oriental Express ?
Donc c'est un vrai oriental. Donc l'oriental, c'est quelque chose de très vanillé, baumé, un peu à la Chalimar et Habit Rouge, pour ceux qui ont porté ce parfum.
La révélation.
La révélation. Une toute petite marque. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la niche. C'est une marque qui se lance en ce moment, qui a été présentée au grand salon de Milan il n'y a pas longtemps, le salon de la parfumerie, qui s'appelle Room 1015, donc chambre 1015. Il y a une référence là au rock'n'roll, et c'était une des chambres occupées par Keith Richards au parc Hyatt de New York.
D'accord.
C'est une chambre où il s'est passé des choses. Vous imaginez ce qui peut se passer avec des...
Alors, il est électrique, le parfum, ou pas ?
Alors, il est complètement électrique. Donc, c'est l'univers du rock'n'roll et l'univers des instruments de musique, surtout. Et des
comment
vieilles guitares, des Gibson. Alors, des notes de cèdre, donc beaucoup de notes boisées, des notes irisées, de la noix de muscade pour ce côté un peu poussiéreux de la vieille guitare qu'on sort de sa housse.
Ça s'appelle Electric Wood.
Très, très belle collection. Il y en a trois et voilà.
Vous avez été déçu quand même ?
J'ai été déçu par une grande marque, une marque qui nous avait habitué à des choses magnifiques dans les années 90, je dirais. C'est Lancôme, c'est la Nuit Trésor. Alors d'abord, je me suis un peu... quand je lisais La Nuit Trésor, je me disais Trésor a dû devenir une forme d'adjectif, parce que La Nuit Trésor, je ne comprenais pas bien le sens de...
Sémantiquement, c'est
de tout ça.
Moyen.
Et puis, Trésor, c'est vraiment un des grands parfums des années 90. Sublime parfum autour de la rose. Là, on est dans quelque chose. Ils appellent ça un gourmand aphrodisiaque. Donc, on est un petit peu dans le gourmand et parfois même un peu trop, parce que c'est très écœurant. On a une note litchi qui n'en finit pas de durer, mais un litchi assez collant, assez
comme
assez
parfois litchi, justement.
Comme parfois les litchis. Donc, c'est un peu un raté de la maison.
Saison.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Lionel Payet.
J'adore cette rubrique.
Vous restez avec nous, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, rapidement, on attend la Maison Plisson.
Ah oui, ça va être l'une des grandes sensations printemps en matière de gastronomie. J'ai pas dit de restaurant, ça s'appelle la Maison Plisson. Ouverture très prochainement, d'ici quelques semaines. Il y a déjà des travaux, boulevard Beaumarchais, tout près de la boutique Merci. Grosse ambition, hein, tout à la fois. Donc il y aura quand même un restaurant, mais une épicerie fine. C'est conçu comme un food court anglo-saxon. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs espaces où vous pourrez déguster sur place et aussi faire vos courses, vos commissions autour d'un sourcing. Là encore, j'emploie le mot fameuse traçabilité. La jeune fille s'appelle Delphine Plisson. Elle a passé des mois, voire des années, à aller capter partout en France et pas seulement le meilleur des produits.
Vous allez tester,
c'est immense,
et
immense.
Vous nous raconterez. Le Festival international des jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire, c'est chaque année pour terminer, mais c'est toujours aussi magnifique. La thématique cette année, c'est jardin extraordinaire, jardin de collection. Il accueille paysagistes et concepteurs du monde entier. Cette année, il y a près de 300 projets et le jury, il est présidé par Patrick Blanc, vous savez, celui qui fait les murs végétaux, exactement. Et donc, il y a tout un tas d'idées à découvrir qui viennent de France, mais aussi du monde entier lors de ce festival. Et vous avez donc jusqu'au 1er novembre pour aller à Chaumont-sur-Loire.
Hein.
C'est absolument
parfait
magnifique. Une belle balade pour se mettre au vert.
Là, c'est pas
merci
des fleurs de synthèse.
Lionel Payès, au mois
merci
prochain pour le prochain
box
office. Merci beaucoup, Emmanuel. À la semaine prochaine, vous serez au rendez-vous.
Oui.
Bien entendu. Allez, Good Luxe Paris, la suite dans un instant.